Le journal présenté par Louis-Valentin Lopez.
Bonsoir. Et un journal largement consacré ce soir à l'analyse des vœux présidentiels. Emmanuel Macron a, comme cela a été annoncé, joué la carte de l'apaisement, mais aussi celle de la fermeté. Il ira jusqu'au bout de la réforme des retraites. Rosalie Lafarge nous dira que retenir sur le fond, puis nous décrypterons le style présidentiel. L'exercice est-il réussi sur la forme? Nous poserons la question à Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po Paris. Nous évoquerons aussi les réactions des politiques après ces 15 minutes de vœux, mais aussi celle des syndicats. En tout cas, François Omery, le président de la CFE-CGC, n'est pas du tout convaincu. Dans le reste de l'actualité, l'ambassade des États-Unis en Irak mise à sac. Une foule en colère, la prise d'assaut aujourd'hui après des raids américains. Une attaque qui ulcère la Maison Blanche, la correspondance à Washington de Grégory Phillips. Et puis nous reviendrons aussi sur l'évasion improbable de Carlos Ghosn, l'ancien magnat de l'automobile incarcéré au Japon, réfugié au Liban, un pays où il bénéficie de soutien de poids. Le reportage dans les rues de Beyrouth d'Aurélien Colli.
Ce serait abandonner ce que le système a déjà abandonné. Ce serait trahir nos enfants, leurs enfants après eux, qui alors auraient à payer le prix de nos renoncements. La réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme.
La réforme sera menée à son terme. C'est cette phrase qui ressort sans doute le plus des vœux d'Emmanuel Macron. Le président les a formulés à 20h, 15 minutes d'allocution, debout aux côtés des drapeaux français et européens. Rosalie Lafarge, bonsoir.
Bonsoir.
Alors sur la question des retraites, Emmanuel Macron ne fléchira donc pas.
Oui, il l'a rappelé, réformer le système de retraite, c'était une promesse de campagne. Alors le président l'assure, il entend les craintes, les inquiétudes, mais ces inquiétudes, selon Emmanuel Macron, elles ne doivent pas pousser à l'inaction. Il ira au bout de ce projet dans lequel il voit de la justice et du progrès social. Il en vante l'universalité, l'équité, la dignité, la responsabilité. Sans jamais parler de l'âge pivot, le chef de l'État laisse tout de même entendre que des adaptations seront possibles. Il évoque notamment une prise en compte des tâches difficiles pour permettre à certains de partir plus tôt, mais sans que ce soit lié à un statut ou à une entreprise, souligne encore Emmanuel Macron. Un président calme dans le ton, mais ferme sur le fond. Il mentionne l'apaisement qui doit primer, selon lui, sur l'affrontement, mais qui ne doit pas pousser au renoncement. Le chef de l'État laisse finalement Édouard Philippe en première ligne, puisqu'il n'entre pas dans le détail du projet. Il confie le soin au Premier ministre de trouver un compromis lors des nouvelles séances de négociations prévues la semaine prochaine. Une sortie de crise qu'Emmanuel Macron souhaite rapide.
Rosalie Lafarge du service politique de France Culture, merci. Voilà donc pour le fond, le contenu des vœux du président de la République. Qu'en est-il de la posture, de la forme? Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de communication politique à Sciences Po Paris. On se souvient d'un Emmanuel Macron offensif hein, dans ses vœux de l'an dernier, autoritaire par moments dans le ton, qu'il n'avait pas hésité à hausser. Là, nous avons pu entendre un président plus calme, plus tempéré.
On a eu un président, un Emmanuel Macron, extrêmement calme, presque trop calme. On avait le sentiment que c'était une allocution presque formelle et qu'il ne souhaitait pas réellement faire. Donc c'est un petit peu des vœux pour rien, si on veut. Le président a paru être relativement détaché de la situation et relativement détaché même des vœux eux-mêmes. Donc c'est un exercice qui devient peut-être un peu vieux aujourd'hui, les vœux. Et peut-être qu'il faudrait réfléchir à faire autre chose parce que là, on atteint une forme de limite dans l'exercice.
Il a raté son coup pour vous ?
Alors, est-ce qu'il y avait un coup à réussir? On ne peut pas vraiment répondre à cette question, mais Emmanuel Macron, on attendait qu'il dénoue une situation extrêmement tendue. Là, il n'y a pas eu de dénouement et on n'a pas senti que lui-même mesurait, disons, l'importance du dossier ou sa sensibilité. On a eu le sentiment qu'il prenait à la fois ses responsabilités sur le dossier des retraites, mais que pour tout ce qui concernait l'exécution et le quotidien, il dégageait sur le Premier ministre, ce qui produit au final une impression assez étrange, de vœux qui ne sont pas vraiment défendus et d'une posture qui est un petit peu en demi-teinte. Hein. Ce sont des vœux, d'une manière générale, très en demi-teinte.
Et on parlait donc d'un président plus calme, en tout cas sur la forme. Est-ce que c'est aussi une façon de mieux faire accepter le fond, puisqu'au milieu de cet apaisement, il a quand même prononcé cette petite phrase hein, « La réforme sera menée à son terme ». On parle de la réforme des retraites.
Alors, il a dit des choses fortes. Hein. Il a dit « Je ne céderai rien, la réforme des retraite sera menée à son terme, on continuera à réformer, etc. » Après, ce qui varie complètement, c'est de dire « je charge le gouvernement de trouver un compromis ». Donc on va bel et bien faire un compromis sur cette réforme, elle ne va pas être adoptée telle quelle. Donc c'est quand même, d'une certaine façon, un recul. On a plus le sentiment qu'elle va être gérer ce recul par le gouvernement et qu'au fond, le président ne souhaite pas, presque pas, s'impliquer dans cette affaire. Il reconnaît qu'il est bien l'auteur du projet, hein, il le défend, mais en même temps, on sent que pour tout ce qui concerne les aspects, disons, fâcheux du dossier, ça n'est pas son affaire.
On a eu l'impression d'un président, entre guillemets, qui ne veut pas se salir les mains, peut-être, selon vous ?
Alors, ce qui est très étonnant dans une phase de campagne municipale, et puis surtout dans ce qu'est Emmanuel Macron habituellement, c'est qu'on n'a pas eu un président combatif. On n'a pas eu un président militant. On n'a pas eu un président qui est allé, au fond, défendre son camp. On a eu le sentiment de quelqu'un qui était en retrait complètement et qui était, au fond, dans une forme de presque de refus de l'affrontement. Donc, c'est très étonnant. Il cherche sans doute à gagner une posture supérieure, à retrouver ce qu'il avait joué au début, c'est-à-dire le côté jupitérien un peu détaché des réalités. Bon, c'est vraiment très étonnant. Il faut attendre la suite de la séquence pour savoir ce qu'il a en tête et quel lapin, entre guillemets, il peut sortir du chapeau. Il avait sorti le grand débat après le conflit des Gilets jaunes. Peut-être qu'il a une autre idée de ce type. Mais sa posture de ce soir ne doit pas être très rassurante pour ses partisans, en tout cas.
Une posture étonnante. Est-ce que cette posture n'est pas justifiée, en tout cas, par un contexte qui n'est pas le même que celui de l'an dernier, hein. Le conflit avec les Gilets jaunes venait juste de débuter. Là, on en est quand même à plus d'un an de contestation, de tension sociale. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui justifie un peu ce recul, ce retrait ?
La réalité, c'est que la réforme avait été très mal engagée et surtout, en quelque sorte, à devoir commenter une bataille en cours qui n'est pas très bien engagée, il faut l'avouer, pour le gouvernement. Donc, c'est pas une posture très simple. Du coup, il a adopté un ton totalement neutre, presque détaché de cette situation. Peut-être parce qu'il n'a pas envie, si la réforme échoue, de l'assumer jusqu'au bout. Peut-être parce que il a l'intention de changer de Premier ministre. Ou peut-être parce qu'il a une idée derrière d'action comme le grand débat l'avait été l'année dernière.
Et d'ailleurs, dans la mouvance de ce compromis, on a pu remarquer, ce n'est pas la première fois d'ailleurs, l'usage de la première personne du pluriel. Voilà, j'ai noté un pêle-mêle. Il nous faudra, je crois, en nous projeter. C'est plutôt le jeu qui prime habituellement dans la Ve République, non ?
Oui, alors, surtout chez Emmanuel Macron, c'est surtout le jeu. Là, il passe en nous, alors pour essayer d'inclure la population dans un élan. En fait, la promesse numéro un de La République En Marche et d'Emmanuel Macron, c'est le mouvement. D'ailleurs, ça s'appelle En Marche. Ils promettent des réformes et c'est tout ce qui les fait tenir. C'est Che Guevara qui disait que la révolution est comme une bicyclette, si vous arrêtez de pédaler, ça tombe. En Marche, c'est un peu pareil. Donc, il faut qu'ils promettent du mouvement, de l'avancée, du progrès d'une certaine façon. Donc, il l'a fait là.
Est-ce qu'on n'a pas eu aussi affaire à un moment à un président littéraire? Parce qu'on connaît les références qu'Emmanuel Macron fait fréquemment à la littérature. Il a cité quand même le prix Goncourt, Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu pour justifier le bien fondé de la réforme des retraites.
Il se trouve que le dernier prix Goncourt est un énorme succès de librairie auprès de la base de La République En Marche. Ce sont les marcheurs, les électeurs et surtout les militants d'En Marche qui plébiscitent ce livre. Et donc, ce petit clin d'œil littéraire d'Emmanuel Macron est un clin d'œil à sa base et à ses amis, à tous ceux qui sont, au fond, des marcheurs parisiens qui adorent le dernier Goncourt.
Mais pas au reste des Français, et c'est le souci.
Alors oui, non, ça ne s'adresse pas au reste des Français. L'un des principaux soucis de la communication d'Emmanuel Macron, c'est qu'elle s'adresse à une France qui gagne, une France qui a envie, une France, etc., qui n'est pas forcément la France majoritaire. Mais ça, c'est son problème depuis son élection. Donc, il n'a pas résolu ce soir son problème-là.
Merci Philippe Moreau-Chevrolet d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de communication politique à Sciences Po Paris. Quelles sont à présent les réactions après les vœux du président ? Côté politique, la majorité salue la locution. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, souligne la détermination à agir, la volonté de rassembler les Français. Stanislas Guérini, député LREM, loue aussi un président déterminé. Du côté de l'opposition, en revanche, le son de cloche est tout autre. Adrien Quatennens, député La France Insoumise, s'interroge. L'Élysée sous Macron est-elle une autre planète ? Le député PS des Landes, Boris Vallaud, décrit lui un digeste de la com gouvernementale. Et qu'en est-il des syndicats ? Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, se dit chez nos confrères de France Info être assez déçu que le président de la République n'ait pas entendu les inquiétudes sur la réforme des retraites. Quant à François Auméril, président de la CFE-CGC, le syndicat de l'encadrement, il est absolument pas convaincu par l'intervention d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites.
J'ai pas été convaincu du tout. Je dois vous dire qu'il y a un point sur lequel je suis entièrement d'accord avec lui. Il entend des mensonges et de la manipulation. Eh bien, moi aussi, figurez-vous, j'entends des mensonges et de la manipulation, mais du côté du gouvernement. Donc, effectivement, on est d'accord sur ce qu'on entend, mais pas la source de ce qu'on entend. Et c'est un peu le problème qu'on a. Emmanuel Macron, finalement, il est toujours en campagne. il vend toujours des choses et il n'est jamais comptable de son bilan. Il attribue des chiffres qui ne sont pas les résultats de son action et de ses réformes. Enfin, on pourrait en discuter longuement, mais sur la question de la réforme des retraites, puisque évidemment, c'est ce à quoi tout le monde s'attendait un petit peu, à sa communication sur le sujet, eh bien, il est droit dans ses bottes. Il n'entend en vérité rien du tout de ce qui lui est objecté par l'ensemble du corps social, à savoir que sa réforme, contrairement à ce qu'il prétend, n'est pas une réforme de justice. Et la position de chacun, je crois, elle est de dire que dans le système actuel, il y a bien sûr tout un tas de nécessités et de capacités à faire évoluer les choses, mais que plaquer ce nouveau système, qui dès le premier jour sera en déséquilibre par le fait qu'il n'est pas assis sur la même assiette de salaire, va poser beaucoup trop de problèmes et qu'on va mettre d'une certaine façon le régime par répartition tel qu'il existe aujourd'hui en zone de grand danger.
François Auméril, président de la CFE-CGC, qui s'exprimait ce soir dans notre édition spéciale sur France Culture. Cette colère qui se traduit donc par la grève, qui rentre dans son 27e jour. Pour demain, trafic toujours perturbé à la SNCF. Un tiers des TGV rouleront, un Transilien sur 5, 4 TER et un Intercité sur 10. Du côté de la RATP, 8 lignes de métro seront totalement interrompues. Les images de la prise d'assaut de l'ambassade américaine à Bagdad ont fait le tour des médias américains aujourd'hui. Les manifestants ont investi le vestibule où la sécurité de l'ambassade filtre les visiteurs. Ils ont brûlé des installations de sécurité, arraché les caméras de surveillance, jeté des pierres sur les tourelles. Ils protestent en fait contre des raids aériens américains qui ont tué dimanche dans l'ouest de l'Irak 25 combattants des brigades du Hezbollah. Et le président Donald Trump a accusé l'Iran d'être derrière l'attaque de l'ambassade. La correspondance à Washington de Gregory Phillips.
Pour Donald Trump, et il l'écrit sur Twitter, c'est bien l'Iran qui a orchestré l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad. Le président des États-Unis justifie aussi les frappes aériennes de dimanche. Téhéran a tué la semaine passée un sous-traitant américain en Irak et a fait de nombreux blessés. Nous avons répondu avec force et nous le ferons toujours. Parallèlement, le patron de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, s'est entretenu tout à l'heure avec les autorités irakiennes pour leur demander de protéger cette ambassade ainsi que les ressortissants américains. Sinon, nous le ferons nous-mêmes. Les images de cette ambassade mise à sac réveillent ici de bien mauvais souvenirs. L'attaque du consulat américain de Benghazi en Libye en 2012, durant laquelle l'ambassadeur Stevens avait été tué, ou plus ancien, il y a 40 ans, la prise d'otage à l'ambassade américaine à Téhéran. L'influent sénateur républicain Lindsey Graham, un proche du président, prévient Donald Trump ne laissera pas se dérouler un autre Benghazi.
Et le Pentagone a décidé d'envoyer des renforts pour protéger l'ambassade américaine. On apprend aussi que Donald Trump s'est entretenu cet après-midi avec le premier ministre irakien. À Hong Kong, la pression des manifestants malgré le nouvel an, des milliers de citoyens pro-démocratie ont formé de longues chaînes humaines aujourd'hui. Ils ont brandi des affiches appelant à poursuivre la bataille pour la démocratie en 2020. Certains protestataires qui tenaient une veillée aux chandelles ont été arrêtés. L'ancien PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, poursuivi au Japon pour malversation financière, s'est donc envolé hier soir pour le Liban. À la surprise générale, y compris de son avocat, « Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial », a déclaré l'ancien mania de l'automobile. Et pour nombre de Libanais, Carlos Ghosn, qui a la nationalité, rappelons-le, libanaise, fait figure de symbole du succès de la diaspora. Il est donc adoubé avec de nombreux soutiens dans les sphères économiques et politiques, aussi bien que dans la rue Aurélien Colli.
Il a le droit de venir dans son pays, bienvenue ici.
Sans ambiguïté, Marie, croisée cet après-midi dans les rues de Beyrouth, une Libanaise admirative du capitaine d'industrie Carlos Ghosn, comme son mari Elias qui tient le parapluie.
Même s'il a fait des bêtises sur le plan fiscal, bon, il a le droit de revenir dans son pays, bien sûr. Écoutez, s'il pouvait être ministre des Finances, ce serait intéressant.
Dans un Liban empêtré dans une crise économique et politique sans précédent, Marie et Elias se rattachent à la success story Carlos Ghosn, comme beaucoup de Libanais fascinés par le parcours de l'ancien PDG de Renault, 30 ans plus jeune, attard, élu plutôt affligé par ce Liban, pays de la corruption et refuge de ceux qui échappent à la justice.
Il a fait cela pas parce qu'il aime le Liban ou parce que sa nationalité est libanaise. Je pense qu'il a fait ça seulement parce qu'ici il peut échapper à tout ce qui se passe avec lui au Japon. Le gouvernement du Liban ne devait pas accepter, c'est pas normal.
Mais c'est encore le cas dans un Liban où la corruption et l'évasion fiscale sont toujours un sport national, pour citer une journaliste libanaise, bien que la classe politique et l'élite économique soient visées depuis la mi-octobre par un mouvement de contestation sociale.
Aurélien Colli à Beyrouth pour France Culture. La météo pour la première journée de l'année, ce sera souvent gris sur le nord du pays. En revanche, plus lumineux sur le sud-est et autour des Pyrénées. Demain matin, pour les minimales, comptez de 0 à 9 degrés de l'intérieur vers les côtes. C'est la fin de ce dernier journal de 2019, préparé avec l'aide de Brice Garcia, à la technique Marie-Claire Oumabadi. Et toute l'équipe vous souhaite avec un peu d'avance une très belle année 2020.